Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Déclic. Nom masculin. Moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Dans ce nouvel épisode, nous avons invité Jérémy. Jérémy est l'un de mes amis, une des personnes les plus solaires, drôles et bienveillantes que je connaisse. Mais comme beaucoup de personnes qui fédèrent et qui amusent, Jérémy a ce que l'on appelle le syndrome du clown triste. Il fait rire les gens et prend soin d'eux pour oublier ses propres souffrances. Aujourd'hui, nous allons parler de cette prise de conscience qu'a eu Jérémy lors de son voyage de 2 ans et demi en Australie, celle d'enfin se faire passer un petit peu avant les autres pour aller mieux et cesser d'enfouir ses souffrances. Salut Jérémy.
Salut Juliette.
Comment ça va?
Bah écoute, très bien aujourd'hui.
Ah bah tant mieux alors.
Ouais.
Je sais pas si t'es un fameux... D'ailleurs, déjà je vais te remercier pour la confiance que tu nous accordes parce que c'est un sujet qui est assez lourd duquel tu vas nous parler, c'est le fait de prendre soin de toi. Donc nous, avec Sophie, on est toujours très honorés d'avoir des personnes comme toi qui nous accordent leur confiance parce que c'est vraiment... C'est un épisode difficile que celui de se livrer. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que si je me suis mis dans la peau de l'intervieweur, c'est parce que je serais incapable de faire ce que vous faites. Donc je te remercie beaucoup.
Je t'en prie, avec plaisir.
Je ne sais pas si tu as déjà écouté un peu le déclic, mais en fait, dans nos interviews, on prend toujours le temps de revenir avec notre invité sur leur avant-déclic pour poser un petit peu de contexte et pour voir ce qui les a amenés en fait, à avoir ce déclic. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de tes expériences?
Alors du coup, moi, j'ai grandi en province.
Ouais.
J'ai grandi à Nevers, qui est en Bourgogne. J'ai passé 21 ans de ma vie là-bas.
Ouais.
Et ensuite, du coup, je suis parti sur Lyon pendant un an. J'étais parti dans une optique bidon de faire une fac de droit.
Ah, moi aussi, j'ai fait un endroit.
Voilà, tu vois, nous sommes ce genre de personnes. Moi, je suis resté 3 mois là-bas.
Ah, moi, j'ai fait l'année complète.
Je suis resté 3 mois, ouais. C'était un peu l'occasion pour moi de m'émanciper, en fait.
Oui.
Et d'enfin vivre ma vie. Du coup, je suis resté un an à Lyon. Mmh. Après, j'ai rencontré, du coup... un très cher de mes amis, qui du coup, lui, m'a fait bouger en fait à Paris.
D'accord.
Et c'est comme si j'avais toujours su en fait que j'allais vivre à la capitale.
Ouais,
je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qui pour moi était une évidence.
Et puis ça fait un moment que t'es à Paris, toi, maintenant.
Bah du coup, ouais, maintenant, Paris, disons 8 ans, ouais. Avec 2 ans et demi à l'étranger quand même, entre-temps. Et à Paris, du coup, j'ai commencé en fait dans le prêt-à-porter.
Ouais.
Du coup, j'ai travaillé pour plusieurs marques. Et ensuite, j'ai décidé du coup de partir.
Oui, parce que c'est justement ce dont on va parler aussi, c'est que toi, tu as vécu pendant 2 ans et demi, c'est ça, en Australie?
C'est ça.
Tu as fait partie de ces Français qui sont partis en Australie. en même temps, comment vous en vouloir? C'est-à-dire que c'est tellement... je crois en plus que le visa travail est assez facile, enfin en tout cas était, parce que maintenant, coronavirus.
Ouais, je dirais, en fait, il y a une sorte de paradoxe avec ce visa. Enfin, il est quand même franchement facile à avoir. C'est rare les personnes qui l'ont pas. Hein.
Ouais, parce que moi, je m'y étais intéressée effectivement pendant un moment avant que je trouve mon premier job et je savais pas trop quoi faire après l'école. Et effectivement, je m'y étais intéressée aussi, justement aussi pour améliorer mon anglais, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'avais regardé que c'était pas pour rien qu'en fait, il y avait autant de Français qui allaient en Australie, quoi.
C'est ça, il y en a énormément. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, à la base, m'était pas venu en fait comme une évidence. Ouais. C'était, en fait, j'ai travaillé en fait pour une marque qui s'appelait Marité François Girbeau.
Oui.
En fait, je suis rentré en BTS dans cette marque. Il s'est avéré que 3 mois après, il y a eu un licenciement économique.
Ouais.
Donc, grand bien me fasse.
Ouais, parce que du coup, ça t'a permis de...
Du coup, en fait, j'ai obtenu les 2 ans de salaire en une seule fois.
Super.
Et je ne savais en fait quoi faire de cet argent. Et c'est mon amie, en fait, Lola, qui, elle, avait une envie de voyage depuis toujours. Mm-hmm. C'est-à-dire de c'était pour elle, à la base, partir en Asie.
Ouais.
Et revenir avec plein d'enseignements au niveau des... Mm. Tu vois, de ce que on va dire... Les huiles essentielles, l'aromathérapie.
Ouais. Un peu les médecines holistiques, etc.
C'est ça. Ouais. Du coup, pour approfondir ses recherches et pourquoi pas ensuite créer quelque chose sur Paris. Mmh. À la base, elle aurait dû partir en fait, avec son ex de l'époque. Mmh. Et moi, un jour, on était ensemble chez moi et je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit, mais en fait, moi aussi, j'ai les droits. Moi aussi, je peux partir. Et je ne m'attendais pas à cette réponse et elle m'a dit, si tu veux, tu peux te joindre à nous.
Génial.
Elle m'a dit, tu sais, le voyage, c'est ouvert à tout le monde. Et là, je me suis dit, waouh.
Ce qui est une belle philosophie.
Ouais. Bah, elle m'a encore surpris, comme toujours. Et du coup, là, a commencé en fait un cheminement où je me suis dit, effectivement, je pense que moi aussi, j'ai droit.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le passeport, commencer à faire les recherches, tu vois, sur comment vivre là-bas, comment s'intégrer.
Et pourquoi vous avez choisi l'Australie ? Parce qu'elle voulait d'abord l'Asie, mais toi, ça ne te plaisait pas ? Ou alors, c'était plus difficile d'avoir les visas
Alors, en fait, c'est venu de Lola, à la base, qui a pensé, en fait, pourquoi pas d'abord aller en Australie.
Et après bouger en Asie.
Et ensuite bouger en Asie, parce que du coup, en Australie, c'était facile, entre guillemets, de s'intégrer, de faire de l'argent, clairement, il faut s'avouer.
Oui, et puis il faut aussi pouvoir retravailler sur place, parce que bon, même si tu as un pécule en partant, il faut quand même faire attention aux imprévus. Voilà, et puis il y a le logement. Voilà, et puis bah, si tu pars aussi, c'est aussi pour un peu kiffer, quoi. Donc si tu pars avec juste un tout petit budget en te disant, il ne faut absolument pas que je dépasse ça, sinon il faut que je bouffe du riz tout le temps, bon bah...
C'est ça. C'est ce qui s'est un peu basé d'ailleurs, mais je te raconterai ensuite. Mais du coup, on est parti du coup dans l'optique d'Australie. Et du coup, moi, j'ai fait toutes les démarches. Et si c'est avéré qu'au final, la personne avec qui elle était à l'époque, n'a pas fait les démarches nécessaires, ce qui du coup a induit un peu une rupture, disons.
Ouais, un peu une rupture forcée, vu qu'il pouvait pas partir, quoi. Ouais.
Voilà, et ce qui fait qu'au final, ça nous a permis tous les deux de partir ensemble. Et
trop bien.
C'était extraordinaire, tu vois. C'est pour moi un des plus beaux cadeaux que je pouvais me faire, tu vois. Ouais. C'était de partir là-bas, quoi.
Et vous aviez prévu 3 ans ou ça s'est transformé, c'était un...
Pas du tout. Pas du tout. En fait, à la base, on avait prévu, disons, les 1 an.
Ouais.
On n'était pas du tout parti dans, tu vois, faire les fermes et notre seconde année. Donc, on devait faire 1 an, voyager en Asie.
Ouais.
Du coup... poser un peu pour que Lola puisse du coup approfondir. Moi, du coup, de même, tu vois, essayer aussi quand même de comprendre tout ce qu'est l'aromathérapie, les choses comme ça, pour peut-être créer quelque chose ensemble sur Paris.
Ok.
Le fait est que ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Bah, c'est ça le mieux en même temps, hein, tu sais. C'est...
Moi, honnêtement, je suis très content de l'expérience qu'on a eue et du voyage. Je suis de ceux, tu vois, qui parlent de l'Australie comme... comme un peu l'Eldorado.
Ouais.
Il y en a certains qui ont eu des expériences très compliquées parce que c'est...
Mais comme partout, hein,
c'est propre à chacun.
C'est ça, c'est propre à chacun, c'est propre au voyage. Et puis c'est... Ouais, et puis en fait, c'est comme... Il y a des personnes qui vont s'installer à Paris, ça va mal se passer. D'autres qui vont voir ça comme une révélation. D'autres qui vont être nés à Paris, qui vont pas supporter, qui vont partir ailleurs. Voilà quoi, c'est...
Exactement.
C'est ça, je pense que de toute façon, c'est le propre des expériences humaines, c'est que malheureusement, parfois, ça peut mal se passer, quoi.
Ouais. Après, le tout, c'est d'en tirer le positif.
Oui, alors le chat boit dans ton verre, il faut savoir
que... c'est ça exactement, je suis en train de boire.
Il faut savoir que les verres d'eau ne t'appartiennent pas ici.
C'est pareil, il me reste mon thé. Je te laisse l'eau.
Quel relou, non mais franchement. Elle a une gamelle pleine hein, avec de l'eau. C'est pas comme si elle avait de l'eau croupie dans sa gamelle.
Ouais, mais tu sais très bien, les chats, ils préfèrent l'eau fraîche, toujours.
Ouais, ils préfèrent l'eau qui n'est pas à eux. Ils préfèrent tout ce qui n'est pas à eux. Qu'est-ce que vous aviez comme plan hein, travailler dans les fermes, tu m'as dit. Le road trip un petit peu aussi.
Alors du coup, quand on est arrivé, du coup, notre plan, du coup, c'était plutôt road trip travail. Ouais.
Oui, du coup, faire ce qu'on appelle du woofing, c'est ça. Donc, tu travailles.
Le woofing, ouais, c'était. Bah, on savait qu'on avait, cette option, pardon. Ouais. Et à la base, on s'est dit, nous, il est hors de question qu'on travaille en ville, parce que ce qu'on voulait, c'était s'immerger vraiment dans la nature. Et
t'as envie de voir les grands espaces, quoi.
Exactement. Enfin, bon, après, on est arrivé à Melbourne, quand même. C'était une explosion, tu vois. C'était de tout, tu vois, de nouvelles saveurs, de couleurs, de personnes, de personnalités. C'était extraordinaire, tu vois. De rentrer, moi je me rappellerai toujours du premier jour où on est arrivé. Si tu veux, on est arrivé, on a toqué à la porte du Airbnb et là, la fille qui est censée nous recevoir ouvre la porte et nous regarde et elle est étonnée de nous voir. Et là, je me dis, merde. Est-ce que c'est la bonne porte, tu vois ?
Est-ce qu'on a bien pris les bonnes dates ?
Ouais. Et là, elle se retourne, elle parle du coup avec sa meuf. Et là, elle parle en anglais, mais elle parle un anglais, tu vois, australien. Moi, je viens d'arriver, j'ai eu 2/20 au bac en anglais.
Non, mais attends, les Australiens, en plus, ils ont un accent.
Ah ouais. Enfin, après, pas tous, ça dépend. Si tu vas Melbourne, Sydney et tout, mais l'outback, accroche-toi.
Moi, j'avais enfin, cliché et aparté personnel, les gens qui savent quand c'est moi qui interview, il y a souvent des apartés, c'est que j'avais rencontré les Australiens à Osgore, cliché complet.
Ah ouais.
Les mecs, et pourtant, je suis pas fluent, mais je suis pas mauvaise en anglais, surtout mm-hmm. qu'en plus, là, j'étais en pleine étude et du coup, j'avais des cours réguliers en anglais. Là, j'en ai plus trop, etc. Donc, c'est vrai que ça pourrait être plus maintenant que je suis plus rouillée, tu vois. Mais les mecs, je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, quoi. Enfin, j'étais en mode
putain. Il était doux.
Aucune idée, je me rappelle plus du tout. En revanche, tu vois, moi, j'ai appris l'anglais avec l'anglais d'Angleterre et l'irlandais, donc ouais. Les accents, je suis habituée, quoi. Mais alors l'australien. Pff.
Mais je sais, parce que quand tu parles anglais, je le sens tout de suite. Mm. On n'a pas du tout la même base. C'est drôle.
Ouais, moi, parce que je faisais beaucoup de stages linguistiques quand j'étais petite, plutôt du côté de l'Angleterre, Southampton, etc. Tu vois, donc je comprends beaucoup mieux l'anglais d'Angleterre. Ce qui est très bizarre, hein, c'est que...
Ah, comment c'est différent, wow.
Ouais, mais parce que, par exemple, à New York, j'avais du mal à comprendre ce que certains disaient aussi, tu vois, parce que l'accent new-yorkais, pareil, il est assez, assez vénère. Mais c'est vrai que je comprenais beaucoup mieux un mec du fin fond de l'Irlande, du fin fond du Connemara, qu'un mec en plein New York. C'est vraiment, c'est l'oreille, quoi. C'est,
ouais, c'est ça, mais c'est vrai, mais c'est totalement ça, tu vois, que quand j'avais vu un Australien parler aux infos, et que c'était une... C'était quoi, il y a un an de ça sur Facebook, et que c'était une vidéo... on va dire une blague, tu vois, ouais. Et que le mec il commence à parler avec un accent de l'outback, et je me dis, waouh, mais moi je comprends. Ouais. Et là, je me dis, incroyable, ouais. Quand même. Je fais partie de ces gens-là qui comprennent, tu vois.
Je pense que c'est comme ceux qui apprennent le français, qui découvrent le français avec les Québécois et qui découvrent le français avec les Français.
Exactement.
Je pense que c'est complètement différent. Enfin, c'est complètement différent.
Pour
quoi.
Être parti au Québec, ouais, effectivement.
Ouais. Donc, tu disais, elle parle à sa meuf.
Et oui, et donc, du coup, elle parle à sa meuf, et là, en fait, elle se regarde, elle commence à parler, et je me demande d'ailleurs si elle referme pas la porte à ce moment-là, ou elle la réouvre. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, on se regarde avec
Lola. Ou elle la rabat.
Elle la rabat un peu, on se regarde avec Lola hyper gênée. Et là, en fait, on comprend qu'en fait, elle s'est trompée de date.
Ah putain, et c'est elle, c'est pas vous.
C'est elle. Ouais. Donc, du coup, sa meuf a fait les yeux énormes en mode genre, je vais t'éclater.
Ah, tu m'étonnes.
Et là, en fait, elle commence du coup. Et en fait, parce que du coup, la chambre que nous, on devait aller, en fait, était déjà prise par une autre backpacker.
Ah oui, d'accord, ouais.
Qui fait qu'elle, en fait, elle commence à changer les draps du lit où elles étaient. Voilà, et là, on leur a dit, mais n'importe quoi, on va pas prendre genre votre chambre et vous allez dormir dans le salon. Et en fait, je lui ai dit, non, restez en place, nous, on va dormir dans le salon. Mm. Donc là, tu vois, première histoire déjà comique, tu vois, en arrivant.
Vous êtes dans le bain direct, quoi.
Et du coup, on est resté du coup 2 mois à Melbourne.
Ouais.
On a acheté un van. Mm-hmm. Et là, c'était parti.
Génial.
Là, c'était parti, on est parti sur
et
les
routes.
Et
là, conduite à gauche, comment ça allait?
Et bah, tu sais quoi, bizarrement, moi-même, je me suis étonné. Bah, ouais. Après, j'ai quand même pas mal conduit quand j'étais jeune à Nevers en
d'accord,
France.
D'accord, ouais. À après... gauche. Les flics me détestaient. T'imagines ? Beaucoup de retraits de permis.
Donc, du coup, j'ai pas mal conduit en province. Et ensuite, à Paris, ben voilà, hein, tu connais. Tu conduis pas, tu prends le métro, tu prends le bus.
Tu t'oublies que tu sais conduire.
Donc, t'oublies, voilà. Donc, tu conduis 2 jours à Noël, tu vois. Donc, en fait, quand moi je suis arrivé en Australie, je me suis installé à gauche. Mais en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas conduit que j'ai très vite pris le pli. Et en plus, c'était un automatique. Donc,
oui, bon, ouais, effectivement.
Là-bas, de toute façon, il y a que des automatiques. T'as l'impression de conduire des cartes. Donc, easy, tu vois. Et du coup, bah là, on part en fait sur les routes et on décide de partir en n'ayant aucun plan.
Génial.
Et là, en fait, sur la route, Lola voit un message de ferme. En fait, à la base, on s'est dit, vas-y, on part donc de Melbourne, donc qui est du sud, et on s'est dit, on va monter dans le nord, dans le Queensland, pour aller bosser à, c'était où, à Ayr, je crois. Et au final, on commence à monter et Lola voit un message. Et là, elle dit, bah écoute, il y a du travail à Genda. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont reconnaître Genda pour les backpackers s'ils écoutent. Et là, en fait, on décide, ben, ok, allons à Genda sur un coup de tête. Et en fait, on est arrivé là-bas. Et là, on s'est dit, génial, on va rentrer dans un camping, on va pouvoir parler anglais. La personne qui gère le camping arrive. Et là,
gros français.
Personnage extraordinaire. Et là, elle arrive, elle dit « Oh, vous êtes français !» Et là, je lui dis « Waouh, non, dis-moi pas qu'elle parle français !» Et en fait, elle commence à parler franco, un franco-anglais. Et là, je me dis
oh. Et puis, elle avait envie de parler français.
Elle a envie de parler français parce qu'en fait, elle a vécu en France à... Ouais. Comment ça va, c'est Bondi, c'est comment c'est dans le 93 Bondi, elle disait Bondi. Moi j'ai adoré
RPZ Bondi dans le 93
I'm from Bondi. Je trouve ça extraordinaire. Et du coup on se retrouve en fait avec cette personne, elle nous installe du coup à une place, et là il y a je pense elle est peut-être 5-6 personnes qui viennent à notre rencontre le lendemain. Et c'est que des Français.
Bien sûr.
Et là, on se dit, c'est une blague. Et en fait, on comprend que le camping est, en fait, je pense, allez, on va dire à 75% français.
Ouais, mais il faut savoir que les Français sont un peuple qui voyage beaucoup aussi. Hein. C'est, c'est une réflexion que les Français se font quand on part à l'étranger, quand on entend que des Français. Alors déjà, premièrement, on râle en disant, putain, il n'y a que des Français. Alors que... Voilà quoi, ça sent un peu le claquos nous aussi, hein, clairement. Et en vrai, c'est aussi que quand tu remarques, c'est vrai que les Français sont un peuple qui voyage pas mal quand même. Enfin,
je te l'accorde.
Moi, quand j'étais au milieu du lac Titicaca avec ma pote Cécile, salut Cécile, je te fais un bisou. quand on était sur le lac Titicaca, c'était pareil, il y avait 2-3 groupes de Français quoi. Ouais. Et après, il y avait pas mal de Sud-Américains aussi, de type des Argentins
pareillement en Australie,
des Chiliens,
ouais.
etc. Bien tu sûr. Vois, beaucoup aussi. Mais sinon, en Européen, beaucoup de Français et d'Italiens.
Oui, c'est très français, italien et Espagne. Ouais. En Australie, c'était beaucoup ça aussi.
C'est un peuple qui voyage beaucoup, alors qu'on parle français, on parle anglais comme des vaches espagnoles, mais on a un peuple qui voyage pas mal, tu vois.
C'est ça ouais, que je trouve assez étonnant en plus, c'est que les Français, pour la plupart, je veux dire, les personnes qui arrivent ne savent pas parler anglais. C'est vraiment, clair. On arrive et on se donne une frayeur, tu vois. On se donne vraiment une frayeur. Et ce qui est génial avec les Australiens, c'est que c'est un pays, ça va être un peu comme les Québécois. Ils vont prendre le temps.
C'est super.
Ils vont être gentils et ils vont expliquer les choses. Bon, après, tu peux tomber sur des personnes un peu plus brutes.
Bien sûr, mais ça va être comme partout, quoi.
Exactement.
Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de tout ce voyage en Australie, à part 1000 anecdotes à raconter
ouais, mon Dieu. Comment résumer en une phrase, c'est compliqué.
Parce que malheureusement, ton déclic porte pas là-dessus, donc je suis obligée de couper un peu court sur cette histoire d'Australie, même si j'adore en entendre parler.
Pour moi, l'Australie, ça a été, si tu veux, c'est comme si il était inévitable pour moi de traverser cette période pour arriver en fait à la fin du voyage, comprendre qu'il était essentiel de me mettre au centre de ma vie, prendre soin de moi.
Okay.
Mais c'est qu'à la fin des 2 ans et demi que j'ai pris conscience, si tu veux...
Que tu avais fait ce voyage un peu pour ça.
Oui.
Que tu avais fait 2 voyages finalement, un peu.
Oui, exactement. J'ai l'impression, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui voyagent, que ce soit 6 mois, que ce soit 1 an, en fait, il y a un voyage, je pense... Ouais.
Un voyage intérieur, quoi.
Intérieur, on pourrait dire un peu spirituel, tu vois, de compréhension de soi et... Et clairement, quand je suis arrivé au bout de ce voyage, on a poussé un peu le vice. C'est-à-dire que j'ai senti que j'avais envie de partir. Mmh. Et on est quand même resté 2 mois en plus en student.
Ouais.
Alors qu'en fait, j'avais déjà ressenti, je me souviens, j'avais eu une amie au téléphone et je lui ai exprimé l'envie de rentrer et de enfin rencontrer un professionnel de santé pour travailler sur le fond.
Mmh.
Parce que le voyage en Australie, c'est beau, c'est magnifique, mais... On le sait tous, c'est comme une sorte de fuite.
Ouais.
On sait très bien que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Donc c'est comme si j'avais quand même besoin de me confronter à ça pour en arriver à la réponse finale qui est moi first.
Ouais. De toute façon, on a répondu à cette question qui venait, mais c'est effectivement une réflexion qui est très juste. C'est que quand on fait c'est pas forcément vrai, mais quand on fait des longs voyages comme ça, c'est... pas qu'on fuit quelque chose, mais qu'on soit on est en quête de quelque chose, soit on fuit quelque chose, soit on fuit une rupture difficile. On se dit je viens de me faire larguer, écoute, c'est le moment d'y aller. Je viens de me faire virer, c'est le moment d'y aller. Il y a un peu ces choses là en fait, effectivement, c'est un peu parfois des étapes avant de passer à autre chose. C'est à dire que tu viens de te faire larguer, tu voyages, après tu reviens et ça va mieux, et puis tu ressors sur une nouvelle vie, tu rencontres quelqu'un d'autre, etc.
C'est comme impulser quelque chose de nouveau. Je trouve qu'il y a certaines fuites qui sont parfois, je pense, qu'on peut appeler ça des fuites, mais je dirais pas que c'est forcément des fuites, je dirais que c'est plutôt c'est une manière différente d'aborder la difficulté, tu vois.
Et dans ce déclic, tu vas nous parler aussi un petit peu de ta... C'est pas une conversion, parce que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est un précepte, c'est plutôt un cadre de vie.
Ouais, clairement.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que représentait le bouddhisme pour toi avant, maintenant, parce que maintenant tu essaies quelque chose, ton cadre de vie, ton rythme de vie, c'était un principe de vie pour toi. Mais est-ce que avant, par exemple en Australie, tu l'as découvert en Australie, tu l'as découvert avant, tu...
Alors en fait moi le bouddhisme du coup je l'ai pardon je rigole ça fait penser à Gad Elmaleh le bouddhisme et donc si tu veux le bouddhisme je l'ai découvert par le père et la belle-mère de mon amie Lola. Mm-hmm. En fait c'est avéré en fait j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel.
Ouais.
J'ai toujours attiré des gens qui ont un côté assez spirituel et disons une vision je dirais assez clairvoyant.
Ouais.
Et je me suis retrouvé un jour chez elle.
Ouais.
Donc je savais que ses parents étaient bouddhistes et en fait j'ai entendu son père pratiquer. Donc en fait c'est ouais. une sorte de récitation de mantra. Mm-hmm. Et quand j'ai traversé le couloir, ça m'a arrêté net. En fait, d'entendre, c'est comme si ça faisait écho en moi.
Ça a fait une espèce de révélation, en fait.
Total. J'avais l'impression, en fait, à ce moment-là, d'être centré sur quelque chose qui était, comment dire, palpable, tu vois, à l'intérieur de moi. C'était vraiment profond. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, je comprends, j'ai entendu, néanmoins, je ne suis pas peut-être encore prêt à l'incorporer totalement en moi. Donc, je suis reparti de plus belle, finir le couloir et rentrer dans la chambre et rejoindre Lola, tu vois. Et donc, après, on est arrivé en Australie.
Mm-hmm.
Et du coup, j'ai décidé d'approfondir. Et du coup, Lola m'a enseigné, en fait, les premières récitations. On a du coup... on récite, si tu veux, de le mantra. On a ensuite deux chapitres que du coup on récite et on a ensuite des prières silencieuses. Donc là, c'était la première fois où je me posais et je pratiquais en fait. Je pratiquais ce bouddhisme. Donc c'était très, très bizarre pour moi. Ça, si tu veux, ça a bougé énormément de choses. Ça vient vraiment chercher les choses qui sont au fond et pas forcément les meilleures.
Ouais.
Donc ça a fait tout rejaillir.
Ouais.
Tout au long de l'Australie, j'ai eu des hauts et des bas.
Mmh.
Ça a été compliqué pour Lola, du coup, parce que j'ai été très virulent.
Mmh.
Et je pense que, tu vois, d'être toujours à deux aussi, c'était dur, tu vois.
Bah, ça fait renaître les... Ça, bien sûr, quand tu vois qu'une seule personne tout le temps, que ce soit un couple... De toute façon, on minimise un peu trop ce qui est l'amitié, mais l'amitié, finalement, surtout quand c'est à deux, c'est un couple. Hein. Donc, c'est les mêmes relations, c'est juste qu'il n'y a pas de relation charnelle.
Bien sûr.
Mais finalement, en termes de sentiments, ça peut être les mêmes. À part, effectivement, tu étais à moins de. Après, ça dépend des personnes, mais tu vas avoir moins de sentiments de jalousie et d'envie, etc., que tu peux avoir dans un couple. Certaines personnes l'ont. Voilà. Mais effectivement, t'as un peu quand même une relation de couple dans une amitié. Donc, effectivement.
Avec le sexe en moins, quoi.
Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, t'as pas de relation charnelle, etc. Mais finalement. Quand tu passes 100% de ton temps avec une personne, en plus dans un van, en plus dans un pays où vous avez pas possibilité d'avoir quelqu'un d'autre à qui parler quand l'autre vous saoule.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué.
Mmh. Surtout qu'en plus, nous, on est un peu, je dirais un peu les mêmes, tu vois, en termes de caractère. Et heureusement, déjà qu'on a une compréhension de l'autre assez, je dirais. Clairvoyant, tu vois, ça va, on se comprend. Donc, on avait quand même ce bouddhisme, si tu veux, parfois pour se redonner, tu vois, de la force. Mais moi, en fait, qui ne connaissais rien et que ça fait rejaillir des choses, j'étais très colérique, ce qui fait que du coup, elle a passé un peu le flambeau à quelqu'un qui était peut-être un peu plus. Déjà, qui n'était pas présente et peut-être un peu plus expérimentée, si je puis dire. Pour m'apporter les réponses. Donc, j'ai quand même continué mon voyage au niveau du bouddhisme. C'est quelque chose qui m'a pas lâché en Australie. Donc, parfois, je pratiquais, parfois, je pratiquais pas.
Ouais.
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand je ne pratiquais pas, je sentais que...
Il te manquait quelque chose ?
C'est pas qu'il me manquait quelque chose, c'est que les choses n'étaient pas alignées.
Mmh.
C'est comme si tu veux, cette récitation fait en sorte que les choses s'alignent. Et quand tu commences à te détacher... Il y a un désordre qui se crée.
Donc c'est vraiment viscéral quoi, en toi. C'est vraiment cette.
Oui,
ça fait partie de toi.
Oui, et en fait, c'est drôle, mais quand je l'ai entendu la première fois, j'ai eu l'impression que c'était pas la première fois que je l'entendais.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est fou.
Ça a vraiment fait résonance à un besoin, je dirais, de limite primaire, tu vois.
Ouais. Et une petite question avant de passer à ton déclic, c'est que tu nous parlais du fait que tu as fait ce voyage en Australie et en fait, ce voyage a été finalement l'incarnation d'un voyage intérieur. Pour comprendre qu'il fallait que tu prennes soin de toi. Mais le fait que tu n'étais pas quelqu'un qui prenait soin de toi avant maintenant, puisque maintenant tu as enfin eu ce déclic et j'en suis très heureuse pour toi parce qu'il le faut. Est-ce que ça faisait partie de ta personnalité, en fait, d'être quelqu'un qui faisait... Est-ce que tu faisais toujours passer les autres avant toi par habitude, parce que ça faisait partie inhérente de toi? Certaines personnes sont comme ça, certaines personnes sont plus des soigneurs que des personnes qui se soignent elles-mêmes. Okay. Et est-ce que ça fait partie de toi ou est-ce que ça vient, je ne sais pas, plutôt d'une enfance peut-être un peu tourmentée? Je ne veux pas aller trop dans les détails si on ne veut pas, mais parce que parfois les gens s'oublient un peu volontairement parce qu'on les a un peu oubliés étant petit, tu vois, ce genre de choses.
Moi, c'est quelque chose qui a toujours fait, je pense, partie de moi. C'est dans ma personnalité. Je sais que depuis tout petit, j'ai toujours eu tendance à vouloir prendre soin des autres. En fait, à toujours être dans une compréhension de l'autre.
Ouais.
De savoir qui il est, pourquoi il agit ainsi. Tu vois. Toujours la question du...
Beaucoup d'observations.
Beaucoup d'observations et parfois de trop, tu vois, de suranalyse constante de moi-même, des autres... Et la première personne, si tu veux, que j'ai suranalysée, moi, ça a été ma mère, tu vois, avant qu'elle nous quitte. Et déjà tout petit, je me voyais déjà dans cette suranalyse, tu vois, d'essayer de comprendre pourquoi elle agit ainsi, qu'est-ce qu'il fait. Et par la suite, en fait, bon, voilà, du coup, on va en parler.
Bien sûr.
Du coup, elle est décédée quand j'avais 14 ans. Mmh. Elle avait un problème d'alcoolisme. Mmh. Elle en souffrait énormément, c'est quelque chose qu'elle cachait. Et elle essayait du coup de garder ce rôle de mère, tu vois, aimante, plus que jamais. Donc elle essayait de garder la face, donc c'était très dur pour nous en tant qu'enfants.
Ouais. Parce que les enfants ne sont pas dupes, hein. Contrairement à beaucoup de ce que parents pensent, c'est que... Non.
Garder en tête, les enfants ne sont pas
dupes. Ouais,
je veux dire, même moi, quand je vois, tu vois, quand je l'ai quand même perdu à 14 ans, ce qui est quand même jeune, déjà bien avant, j'avais déjà cette capacité d'analyser et de comprendre tout ce qui se passait.
Et de voir qu'en fait, quand les portes étaient closes, ça n'allait pas, quoi. C'était pas...
Clairement.
Que tes parents, ce n'est pas juste une façade et qu'effectivement, tu sais quand quelque chose se passe derrière les portes closes, quoi.
C'est ça, clairement. Et donc, du coup, après, je pense, ce décès qui, moi, en fait, j'ai complètement en fait, appréhendé la chose. C'est comme si je savais déjà ce qui s'était passé quand je suis arrivé, en fait, ce vendredi chez moi et que mon père me l'a annoncé. Pour moi, c'était comme une évidence, en fait. Je l'avais déjà ressenti avant d'avoir passer le portail. Et du coup, je n'ai pas pleuré, en fait, tu vois. J'ai vu mon père et mon frère pleurer dans mes bras. Ça m'a beaucoup attristé. Et d'un côté, je me suis dit, c'est une bonne chose, peut-être autant pour elle que pour nous, parce que la souffrance est finie.
Ouais.
Et donc, je pense qu'après ça, j'ai approfondi le côté « je m'oublie et je suis sur les autres ».
Parce qu'en plus, tu as eu, comme tu le dis, toi, tu n'as pas pleuré, mais ton père et ton frère ont pleuré dans tes bras. C'est très révélateur, en fait, finalement.
Ouais, clairement. Et tu vois, même à l'enterrement, je m'étais décidé de rester fort et de ne pas pleurer, comme si, en fait, je mettais le côté rationnel des choses sous prétexte qu'en fait, j'avais compris ce qui s'était passé. Je pensais comprendre tout ce qui se passait chez ma mère et le pourquoi du comment de cette souffrance. Je me suis dit... Bon, tu ne peux pas pleurer, c'est factuel. Elle est partie, elle ne reviendra pas. Tu dois avancer, les choses sont ainsi.
Tu avais un pragmatisme énorme.
Énorme, énorme. Et ce qui, je pense, m'a un peu, du coup...
Ça t'a servi et desservi, peut-être.
Ouais, complètement. Parce que du coup, ça a mis du temps, si tu veux, après, à ce que j'arrive, tu vois, à faire le deuil. Mais celui, vraiment le vrai. Parce que moi, je continue à avancer... Et au final, tu as l'impression, si tu veux, de faire un deuil, mais en fait, c'est plutôt un déni.
Oui, c'est ça. C'est que c'est une fuite en avant.
C'est ça. On ne se rend pas compte au début.
Non. Ouais, Donc justement, ça fait une très belle transition, enfin très belle, ça fait une bonne transition vers ce que je vais dire. Mais, et quand est-ce que tu as pris conscience que tu n'avais pas fait vraiment le deuil de ta maman? C'est quand tu es rentrée d'Australie ou c'est pendant le voyage en Australie que tu t'en es un peu rendu compte?
C'est pas quelque chose qui tombe comme un coup près pour moi. C'est comme si c'était quelque chose qui grignote petit à petit. Et tu comprends, en fait, c'est comme, je dirais, un cristal et que tu souhaites, tu vois, affiner et le rendre le plus beau possible. Donc, il y a eu toutes ces aspérités et au fur et à mesure de ma vie, j'ai avancé, j'ai compris, parce que toujours dans cette suranalyse de moi-même, j'étais là à me poser des questions sur tout et du coup, j'essayais de faire le lien sur telle et telle action, tel comportement, de savoir d'où ça venait. Donc, je comprenais clairement que je remettais certains schémas en route. Et en fait, l'Australie, à la fin, m'a fait comprendre que clairement, quand on est toujours en train de tendre, enfin, c'est pas tendre, c'est qu'on attend qu'on nous tende une main de l'extérieur. C'est là où j'ai compris qu'en fait, moi, celle que j'attendais le plus, c'était celle de ma mère à l'époque. Ouais. C'est cet amour maternel qui m'a été enlevé, cette insécurité. Et là, je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps, en fait, à ce moment-là, de rencontrer quelqu'un, un professionnel de santé. Donc, je ne savais pas encore qui j'allais rencontrer. Un psychologue, pour moi, était... C'était compliqué, donc du coup j'ai décidé de me tourner vers une hypnothérapeute. Et pour moi c'était essentiel d'aller chercher en profondeur pour, si tu veux, entre guillemets, parler à l'enfant que j'étais, de dire ça va bien se passer en fait.
Ah, de rassurer l'enfant en fait.
De rassurer l'enfant en fait, et donc du coup en rassurant l'enfant, tu permets, si tu veux...
À l'adulte de s'épanouir.
C'est ça, elle a dû de s'épanouir et de enfin comprendre que il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, tu peux commencer en fait à faire ton deuil. C'est pas tant le faire, c'est commencer à le faire.
Et c'est de vivre avec En fait, c'est surtout le problème du deuil, c'est surtout on dit souvent que tu t'en remets jamais, j'en sais quelque chose, que tu t'en remets jamais mais que tu vis avec, mais le fait est que c'est compliqué aussi de vivre avec réellement et de pas juste être dans le déni et de continuer à vivre en faisant comme si ça n'existait pas.
C'est ça.
Ça c'est quelque chose qui est très compliqué, justement tu nous parlais du fait que pendant ton voyage en Australie, en découvrant le bouddhisme, tu avais beaucoup de hauts et de bas puisque ça ne faisait ressortir pas que le bon, donc j'imagine que ça ressortait déjà un petit peu.
Clairement, ouais. En fait, je pense que ça a fait ressortir pas mal de colère que j'avais gardée en moi.
D'injustice peut-être que tu ressentais.
Beaucoup d'injustice. Ouais. Mais en fait, c'était souvent de l'injustice que je me renvoyais à moi-même. Parce que du coup, le fait, tu vois, de m'occuper toujours des autres et d'être toujours, tu vois, force de proposition. Parce que pour moi, tu me connais, hein, oui. J'ai toujours été, tu vois, je pense, de très bons conseils pour amener les autres vers la lumière, les propulser, leur faire comprendre où sont leurs forces.
Ouais.
Et clairement, oui, ça a fait ressortir toute cette aspect.
Une injustice envers toi-même, peut-être que tu en voulais un peu d'être parfois trop chez les autres et pas assez chez toi, quoi.
Clairement, oui. Clairement,
je veux dire, intérieurement, en termes de visite chez les autres.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toute la colère en fait, que j'ai pu déverser, en fait, ce jour-là, je me souviendrai bien dans ce taxi, je crois qu'on était à Bali, et que j'ai tout déversé sur mon ami Lola, en fait. J'ai très vite compris à ce moment-là en fait, que toute la colère que je lui renvoyais, en fait, c'était de la colère que je me renvoyais à moi-même parce que j'ai pas su prendre soin de moi.
Ouais. Et dire parfois, stop, c'est à moi un peu de penser à moi. C'est ça. J'ai besoin qu'on parle de moi, j'ai besoin de me confier moi aussi.
Exactement. Mais bon, en fait, cette colère, je la renvoyais aussi à une personne qui n'était plus là.
Ouais.
Donc, et c'est compliqué. Hein. Il y a même en plus eu, si tu veux, après le décès de ma mère, il y a eu pendant pas mal d'années une sorte de colère que j'ai renvoyée sur mon propre père comme une sorte de colère où je me suis dit il n'a pas été assez présent, il n'a pas su faire ce qu'il fallait à ce moment-là, ce qui est très dur.
Oui.
Mais après, le fait est que du coup, l'Australie m'a permis de lui écrire une lettre le jour de la fête des pères et de lui expliquer du coup, tu vois, comment je ressentais les choses et de lui remercier parce que c'est un père magnifique, il a quand même tenu une famille... tu vois, à bout de bras.
Dans un contexte très difficile.
Dans un contexte très difficile. Donc, pour ça, je lui en remercie plus que jamais, tu vois. Et c'était un petit garçon qui parlait à l'époque. Ouais. Donc, tu vois.
Bien sûr, c'est que les enfants ne sont pas dupes. Et parfois, la colère d'un enfant est tellement peu exprimée que parfois, tu peux avoir des réflexions qui peuvent être un peu dures. Mais c'est aussi une façon de comprendre ce qui est arrivé, quoi, finalement.
C'est ça. C'est ça, clairement. Ouais, en fait, c'est clairement un cheminement. Et je crois que le plus dur, c'est quand clairement tu décides de voir qu'il va falloir intégrer un peu plus profondément pour pouvoir un peu booster, tu
Et le bouddhisme, t'as aidé à tout ça?
Clairement, le bouddhisme, ça m'a aidé, si tu veux, ça m'a donné une sorte de droiture. Ça te
Ouais.
donne un équilibre,
Est-ce
en
que tu
fait.
peux justement nous en parler parce qu'on voit tout ça un petit peu ce que c'est. Moi, je me suis un petit peu renseignée parce que c'est des préceptes qui me parlaient. Mais effectivement, c'est ce que je disais à un moment dans l'interview, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire que le bouddhisme est une religion, c'est plutôt un mode de vie, plus que
Ouais,
c'est plutôt des
clairement.
préceptes plus qu'une religion. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens qui ne connaissent pas du tout?
Bah, alors le bouddhisme, après, bon, t'as quand même trois grandes écoles, je
Ouais.
dirais. T'as ce qu'on appelle le Hinayana, Mahayana et Vajrayana. Et moi, le bouddhisme que je suis, c'est le bouddhisme de Nichiren, qui du coup est du coup dans le mouvement du Mahayana.
D'accord.
Et en fait, c'est le seul qui te dit que l'illumination est accessible à tous.
D'accord.
Et que la vie quotidienne, enfin les difficultés de la vie quotidienne, en fait, sont un terrain d'entraînement et d'opportunité
D'accord.
pour provoquer un changement intérieur, ce qu'on appelle en fait la révolution humaine.
D'accord.
Et donc le bouddhisme de Nichiren prône ce qu'on appelle Kozen Rufu, la paix
Ouais.
mondiale, mais de part en fait la révolution humaine de chacun avant tout.
D'accord.
Donc c'est d'abord faire sa paix intérieure pour induire la paix auprès de tous.
D'accord.
Et du coup, ce bouddhisme en fait se base à ce qu'on appelle le Sutra du Lotus. Le
Ouais.
Sutra du Lotus, c'est un des derniers écrits qui a été fait dans les 8 dernières années par le Bouddha, donc
D'accord.
Bouddha Shakyamuni, l'originel.
D'accord.
Bouddha, du coup, qui veut dire éveillé, pour ceux qui ne savent pas, être éveillé. Et en fait, on se base sur ce Sutra du Lotus. On a 2 chapitres. Et donc, en fait, on va réciter un mantra qui est Nam-myoho-renge-kyo, qui veut dire du coup se consacrer à la loi merveilleuse du Sutra du Lotus. Et ensuite, nous récitons du coup 2 chapitres. Et après, du coup, nous avons des prières silencieuses.
D'accord.
Donc, nous avons aussi un gong et entre nos mains, nous avons ce qu'on appelle une sorte de chapelet bouddhisme qu'on appelle le juzu.
Et tu le pratiques quotidiennement, du coup, j'imagine, ou c'est je sais pas comment du
Alors,
tout, je sais pas du tout comment ça marche
en
en termes de
fait,
pratique.
alors en termes de pratique, tu pratiques matin et soir.
D'accord. Donc big ouais.
Après, c'est à celui qui veut en termes de durée, parce que si tu veux, en fait, tu as du coup les Nam-myoho-renge-kyo que tu prononces. Ensuite, on a ce qu'on appelle ça, en fait, c'est faire des daimoku. Après, on a gongyo, en fait, c'est les 2 prières.
D'accord.
Donc, on a du coup, pas les 2 prières, pardon, les 2 chapitres. Et après les chapitres, du coup, on fait daimoku. Daimoku, c'est la répétition de
Ouais.
Nam-myoho-renge-kyo,
Ce
en
qu'on a,
fait.
c'est ce qu'on appelle un mantra. Un mantra, en fait, c'est une
C'est
répétition
ça,
d'un.
exactement. Donc en fait, ce qui permet, si tu veux, ça permet en fait de prendre de la hauteur sur les choses. Donc après, voilà, ce qui est bon quand même, c'est de le pratiquer un certain temps. Après, parfois, il y a des jours, clairement, t'as pas envie de
Ouais.
pratiquer et il n'est pas forcément bon d'aller pratiquer, je
Oui.
pense. À mon sens, ça ne regarde que moi. Si par exemple, tu es très en colère, après, voilà, tu n'as pas envie que ça vienne faire ressortir ta colère à ce moment-là. Néanmoins, c'est quelque chose qui est bon de pratiquer tous les jours pour avoir une sorte de, je dirais, une régularité. La régularité est très bon dans la vie, tu vois. C'est des choses qui se maintiennent. C'est un peu comme les artistes qui vont entretenir, tu vois, leur art. Ça, c'est un peu mon art à moi, tu vois.
Ouais.
C'est quelque chose qui me nourrit et que quand je le pratique pas,
Tu
il y
te
a du
sens un peu.
désordre.
Ouais, tu te sens. Bah, il y a du désordre, tu te sens
Oui,
désordonné, ouais.
c'est ça, je me sens différent. Donc c'est vraiment enfin, c'est vraiment particulier. Si tu veux, tu peux amener en plus des questionnements pendant tes prières et tes daimoku. Et donc, tu peux, si tu veux, viser par exemple un souhait, tu vois. Mais il faut que ce souhait ait du sens, d'une valeur profonde quand même.
Ouais.
Faut pas que ce soit, par exemple, je souhaite avoir une Lamborghini demain.
Mais voilà, c'est pas genre j'ai envie de gagner au loto, file le
Clairement
Bouddha,
non, tu vois.
file-moi
C'est ça. Ah bah sinon laisse tomber, tous les bouddhistes seront déjà riches. Enfin, tu
Eh ben
dis,
on les voit, attends,
super
il me
quoi.
semble que leur robe là, c'est du velours, hein, du velours brodé d'or, hein, attends, les mecs ils sont blindés, hein.
Au final, tu dis bon, ok, t'as compris.
Absolument contre le précepte, quoi.
Et du coup voilà, donc c'est c'est vraiment, tu t'amènes une... Enfin, moi, personnellement, j'amène vraiment une réflexion profonde, tu vois. Après, il est dur, des fois, de pratiquer sur des choses essentielles, parce que quand tu ne sais pas déjà qu'est-ce que tu veux dans ta vie...
Oui, et puis on est quand même... Enfin, il faut dire à nos auditeurs que tu ne vis pas en autarcie complète, dans un ashram, etc. Voilà, quoi. C'est que toi, tu as une vie quotidienne d'un jeune de 30 ans, parisien, voilà, qui a des amis, qui fait des soirées, qui voit des gens, etc. Qui fait des soirées, parce qu'il y a le couvre-feu.
Ouais, super.
Avant couvre-feu, bien sûr. voilà, enfin, c'est-à-dire que toi, tu as une, c'est quelque chose que tu laisses être compatible avec ta vie quotidienne, et même si tu le pratiques de phase, enfin bi-quotidienne, je sais pas si ça se dit, mais si tu le pratiques deux fois par jour, en fait tu as quand même une vie normale, enfin voilà quoi, c'est une vie normale.
Bah, si tu veux, c'est comme si, en fait, c'est quand tu le pratiques, c'est comme si, en fait, l'essentiel c'était ça avant tout le reste.
Mm-hmm.
C'est à dire que c'est d'accord, ça qui te permet, entre guillemets, d'orienter. Souvent, ce que je, le matin, quand je pratique et dans ma prière, je prie pour que la journée se passe comme elle doit se passer.
Ça, c'est... Ouais, c'est pour ça que je m'étais intéressée au bouddhisme. C'est le côté... J'aime pas ce mot parce que ça a un côté très négatif, mais c'est le côté fatalisme un peu du bouddhisme. C'est-à-dire que le côté un peu, en fait, ce qui doit se passer se passera. Et après, à toi de l'interpréter, et c'est la façon dont tu vas l'interpréter qui va changer, pourquoi pas, la chose et la finalité. Et moi, c'est pour ça que le mot fatalisme, fatalité est négatif. Du coup, c'est pas le bon mot, c'est juste que j'ai aucun vocabulaire. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans cette approche de la vie. C'est le côté pas destin, mais le côté, effectivement, que, en fait, si ça doit se passer, ça se passera, et c'est à toi, en fait, de transformer la façon dont tu l'appréhendes, quoi, et dont tu le prends, quoi.
Mais clairement, c'est ça, et ce que j'aime dans ce bouddhisme, si tu veux, c'est que il exprime vraiment que chaque difficulté est un moyen opportun, en fait.
Mmh.
Et c'est-à-dire que tous les problèmes de la vie quotidienne, c'était vraiment un bouddhisme, si tu veux, qui pour moi, je dirais, est moderne.
Mmh.
Parce qu'on n'a pas, voilà, comme tu dis, ce côté un peu ashram, moine, qui est plus, du coup, sur le courant... Hinayana. Donc t'es vraiment, si tu veux, c'est un outil qui te permet de te confronter à la société moderne et d'être ancré, en fait, de comprendre qu'en fait t'es en capacité de toi-même atteindre l'éveil.
Et c'est pas antinomique avec notre société, etc., quoi.
Non, pas du tout, au contraire, en fait. C'est-à-dire, tu vois, moi par exemple, je vais rencontrer une difficulté quotidienne. Je vais te prendre l'exemple plutôt de quelqu'un que j'ai rencontré en séminaire. Cette personne-là, en fait, avait décidé de reprendre ses études. Elle travaillait déjà, je crois que c'était dans le 3, si je ne me trompe pas. Je ne voudrais pas me tromper, quand bien même. Et du coup, cette personne, en fait, était confrontée, du coup, à atterrir dans un bureau loin de chez elle, qui était à Rouen. Et elle s'est retrouvée dans un bureau, en fait, avec deux personnes, deux filles. Et s'est avéré que ces deux filles, en fait, les détestaient.
Ah merde.
Ouais, c'était très compliqué et tout. Et ce qui fait, en fait, cette personne-là, qui, du coup, avec ce bouddhisme, s'est dit, c'est pas grave. Je vais faire en sorte de transformer ce qui se passe au sein de ce bureau. Donc, en fait, elle a essayé, tu vois, de transformer, d'accord, d'aller vers les personnes et de cette difficulté en faire un moyen opportun. Mmh. Et en plus, son souhait, à la base, c'était quand même, du coup, de revenir proche de chez elle.
Ouais.
C'est avéré que, du coup, elle a eu... quelqu'un qui l'a hébergé, tu vois, par chance, à ce moment-là, à cet endroit. Et il y a eu une sorte de désistement, je crois, à Paris, et qui fait qu'au final, elle a pu revenir sur Paris. Donc, elle a décrété, du coup, de ne pas démissionner de ce poste. Elle a affronté l'adversité. Elle s'est dit, je ne partirai pas. Je ne vais pas me laisser prendre par ces deux personnes qui tu vois, ont un problème. Je vais plutôt essayer de transformer la situation. Ce qui fait qu'en résultat, elle s'est quand même retrouvée, du coup, à revenir chez elle et d'avoir un travail à 2 minutes de chez elle.
Incroyable.
C'est incroyable. C'est, tu vois, c'est ce genre de choses qui te permet, en fait, de dire, si j'étais parti à ce moment-là, est-ce que j'aurais pu obtenir le travail à 2 minutes de chez moi? Et ça, du coup, elle a vraiment pris cette force et elle est rentrée tous les jours chez elle, et elle a pratiqué pour, en fait, ces deux personnes. Elle n'a pas pratiqué pour elle, elle a pratiqué pour la bodhité de ces deux personnes présentes, d'accord, dans ce bureau, tu vois. Si tu veux, ça prône vraiment le donner aux autres, mais tu n'es pas dans l'attente de recevoir.
C'est ça.
Mais quand bien même, ça fleurit.
C'est d'ailleurs une très belle chanson de Florent Pagny, apprendra à donner.
C'est ça. Qu'on passe d'ailleurs tout de suite.
Et remporter un coffret DVD du dernier concert de Florent Pagny.
En bonus.
Mais Pour en revenir à ce, c'est hyper intéressant d'ailleurs, merci, parce que c'est vrai que moi j'y connaissais pas grand chose, très honnêtement. C'est quelque chose qui m'a toujours assez fasciné.
On pourra en parler des heures.
Ah, mais c'est génial. Mais du coup, est-ce que, donc, en fait, tu as dit tout à l'heure qu'en fait la pratique du bouddhisme a résonné comme quelque chose qui a toujours fait partie de toi. Mm-hmm. Est-ce que du coup ça s'est posé comme une évidence quand tu t'es dit qu'il fallait que tu prennes soin de toi pour faire le deuil de ta maman?
Ah, tu mets le doigt dessus là. En fait, complètement, parce que du coup j'ai repris un peu la pratique avant de partir d'Australie. Et après, il était du coup une évidence pour moi de rentrer et de clairement m'intégrer dans ce qu'était le bouddhisme.
Ouais.
Ce bouddhisme, le bouddhisme de Nichiren. Et je m'étais dit, du coup, je vais rentrer ce qu'on appelle en fait dans une. On a des réunions de discussion. Donc en fait sur Paris il y a plusieurs secteurs, en fait c'est par arrondissement, et du coup c'est découpé en homme, jeune homme, femme, jeune femme.
D'accord.
Donc après tu peux quand même avoir des mélanges à certaines réunions, et je me suis dit voilà, je vais intégrer les réunions. Et en voulant intégrer les réunions, il y a une personne, Claudio, que je salue si un jour il m'écoute, extraordinaire, un homme extraordinaire, et en fait il m'a pris un peu sous son aile. Et il m'a dit, écoute, viens chez moi et pratiquons ensemble. Et là, il a commencé à me parler en fait de ce qu'on appelle mes vœux d'engagement auprès du bouddhisme.
Ouais.
Et moi, ça me faisait un peu peur parce que ça me demandait de m'impliquer dans quelque chose.
Le mot engagement fait peur en plus.
C'est
quoi,
ça.
C'est...
Surtout que moi.
Et c'était nouveau, tu découvrais les groupes de discussion, etc.
Exactement. Enfin, c'était. Et puis ça... en plus, voilà, ça implique prendre soin de moi. Donc déjà, je prends soin de moi. Donc là, waouh, déjà, on avance. Ensuite.
Et puis en plus, même si tu es quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, on n'est pas dans une société qui a toujours connu le bouddhisme, et on connaît très peu. On est dans une société occidentale, extrêmement occidentalo-centrée. Donc c'est compliqué, c'est quelque chose que même si tu as découvert et tu commences à connaître les préceptes, ça reste quand même quelque chose qui fait pas partie de notre quotidien en tant que Français, quoi. Donc c'est pas comme si tu t'étais révélé avoir une foi catholique ou hébraïque pendant ton voyage, et que tu rentres et tu vas au temple, ou tu vas à l'église, ou tu vas à la mosquée, etc. Voilà quoi, c'est des religions, enfin c'est pas une religion encore une fois, mais c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout en France, hein. J'allais dire moins, mais c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout.
C'est...
Alors, Jeanne Moreau.
c'est quelque chose qui est quand même grandissant,
ouais.
Je dirais. Après, oui, moi, effectivement, comme tu l'as dit, moi, j'ai eu un peu cette première question aussi qui m'est venue en mode, puis-je m'impliquer dans quelque chose et l'honorer comme il se doit et du coup l'assumer. Parce que du coup, déjà, moi, c'est-à-dire assumer quelque chose qui me fait du bien.
Ouais.
Moi, tu me connais, je me mets pas en avant.
Ouais.
Donc déjà, en plus, m'impliquer dans quelque chose, c'est quelque chose que je ne fais pas, parce que du coup, je fais en sorte que les autres s'impliquent dans ce qu'eux souhaitent. Donc ça me demandait déjà énormément.
Ça fait un gros travail pour eux.
Énormément de travail.
Pour un petit Jérémy qui vient juste de rentrer d'Australie, quoi.
C'est ça. Là, je me suis dit, bon, ok. Mais en fait, je me suis pas laissé démonter. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Du coup, tu as les vœux d'engagement. Et si je ne me trompe pas, en fait, c'était à la base... En fait, il m'avait demandé de recevoir... si je pouvais, en fait, recevoir ce qu'on appelle le Gonzon. Le Gonzon, en fait, c'est le parchemin sur lequel devant on pratique chez nous.
D'accord.
Du coup, il est inscrit le mantra Namyo Rengekyo. Et au premier abord, ça m'a fait un peu peur.
Ouais.
Et donc, du coup, dans un second temps, c'est là où il m'a parlé ce qu'on appelle les vœux d'engagement. Mm-hmm. Je crois que ça, je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Excusez-moi. Et c'était, en fait, une première étape que tu fais avant de recevoir ton Gonzon.
D'accord.
Je pars en fait un matin en entretien. Et avant d'accéder... c'est ça, en sortant de cet entretien, du coup, ce cher Claudio m'appelle et me demande comment ça va dans ma vie. Et me reparle du coup de ces fameux vœux d'engagement. Et là, il me dit, écoute, si tu veux, dans 3 jours, il y a une cérémonie, tu peux faire tes vœux d'engagement. Là, une frayeur s'installe.
Trouillomètre à zéro.
Mon deuxième cerveau émotionnel, qui est le ventre, du coup, est en panique totale. je me demande, là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais et...
Des pétrouilles, déjà, pour commencer.
Ouais. Clairement. En fait, déjà, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je l'envoie balader d'une manière gentille. En fait, je me suis dit, écoute... T'as pas fait deux
réfléchis,
ans,
ouais.
T'as pas fait 2 ans et demi de voyage en fait.
Prends au moins le temps pour.
C'est ça. Je dis, pose-toi, réfléchis. Et là, dans la tête, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut se lancer, c'est un peu comme un saut à l'élastique.
C'est clair, ouais, au bout d'un moment, il faut donner... Et c'est ce que je dis souvent, hein, c'est que si, bah, parfois des situations, si jamais c'est pas toi qui... Si tu donnes pas l'impulsion, on pourra te tirer tant que tu veux. Si toi, tu le donnes pas l'impulsion, personne le fera pour toi. Hein, c'est...
Ben, c'est ça. Et en fait, du coup, tu vois, déjà, la première impulsion qui était de prendre soin de moi, en fait, là... C'était comme la réelle première impulsion.
Ouais, ce que j'allais dire, ça se cristallisait. Enfin, c'était vraiment une situation qui l'a cristallisé.
Bon, après, même si avant, j'avais quand même rencontré cette hypnothérapeute, qui est Emmanuelle Morel, déjà. S'il y a des gens qui cherchent une très bonne thérapeute, elle est extraordinaire. Et j'avais déjà impulsé quelque chose. Là, j'impulsais vraiment un truc. Parce que le fait de dire au revoir, si tu veux, de commencer à faire un deuil... C'était laisser quelque chose. Là, j'ancrais quelque chose, tu vois. Et donc, je décide du coup d'accepter de faire ces vœux d'engagement.
En plus, c'est assez intéressant de voir que tu as laissé quelque chose pour en ancrer une autre derrière.
Exactement. En fait, ce rapport en fait de plein et de vide qui est partout autour de nous, même dans l'univers. A totalement son sens en fait à l'intérieur de nous, je pense, même au niveau énergétique. Tu as toujours une balance en fait, et quand tu laisses quelque chose, tu es en capacité de faire rentrer autre chose. Et en fait, là, je me suis donc entendu dire je veux faire les vœux d'engagement. J'avais l'impression que ce n'était pas moi. Claudio clairement saute de joie. Elle me dit écoute, je t'envoie tout ce qu'il faut, tu vois, au niveau de l'adresse et tout, et on se retrouvera là-bas. Là, je raccroche. Et je vais au distributeur car j'avais besoin de retirer de l'argent. Et en retirant mes 20 euros, je me rends compte qu'on est le 15 octobre. Et j'ai perdu ma mère le 15 octobre.
C'est fou.
Et en fait, ça faisait 14 ans qu'elle était décédée et je l'ai perdue à l'âge de 14 ans. Putain. Pour moi, la vie est cyclique.
Ouais, là,
non, c'est pas pour rien. Clairement.
Là, c'est ce truc de plein et de vide, ouais, justement, je pense que ça.
Ouais,
donc, et t'as pas meilleur signe, quoi.
Clairement, non. Donc, ouais, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Et donc, du coup, ben, je suis allé faire mes vœux d'engagement. C'était vraiment, vraiment émouvant. Pour moi, ça m'a vraiment énormément touché. Il y a eu, j'ai fait mes vœux d'engagement et ensuite, du coup, j'ai décidé du coup de recevoir le Gonzon un mois après. Donc, j'ai vraiment enchaîné.
Ouais, t'as vraiment fait les deux grandes étapes.
C'est ça. Et pareil, la réception du Gonzon, c'était du coup matérialiser la chose, tu vois, et du coup, m'ancrer aussi parce que c'est mettre quelque chose chez moi.
C'est ce que j'allais dire, c'est que t'avais le laisser partir. Le prendre un engagement et recevoir un objet, quoi.
C'est ça.
T'as trois grandes étapes.
Clairement. Et en plus, tu vois, le fait de le recevoir, en plus, en présence de mon amie Lola et de son père et de sa mère, c'était très, très, très émouvant parce qu'il représente, si tu veux, son père, tu vois, quand je lui ai exprimé que c'est la première personne que j'ai entendue, il représente cette première pierre posée, tu vois.
Ouais.
Donc, c'était très fort. Et du coup, ben, j'ai pu du coup installer ce parchemin chez moi et enfin décider de m'ancrer de plus en plus, tu vois, chaque jour. Quoi.
Et on arrive, je pourrais en parler des heures avec toi. On arrive bientôt à notre fin de ce déclic. Mais est-ce que tu sens que tu as fait du chemin aujourd'hui?
Clairement, oui. Clairement, j'ai vraiment fait du chemin et je pense que le bouddhisme a été un outil essentiel pour moi pour enrichir. Je dirais que c'est comme un peu une machine qui te permet d'accélérer en fait le mécanisme.
C'est un coup de pouce, quoi.
C'est vraiment un coup de pouce, tu vois.
Ouais.
Clairement. Ouais. Après, bon, la vie, c'est des hauts et des bas.
Bien sûr.
Actuellement, exactement, j'ai traversé une passe un peu down, mais... Et c'est encore une fois, tu vois, un rappel qui te dit mets-toi devant.
Ouais.
Rien n'est acquis, mais rappelle-toi que la première personne qui compte dans ta vie, c'est toi-même. Et je pense que tout le monde devrait l'entendre ainsi.
C'est ce que je dis toujours, je le dis toujours à mes amis, j'ai dit dans un épisode du Déclic, c'est que la seule personne avec laquelle on est sûr de passer toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc exactement. Il faut faire attention à soi, il faut pas être égoïste et penser qu'à soi et ça n'a rien à voir, en plus c'est complètement différent, mais c'est juste ça. Aussi
c'est s'écouter en fait.
Exactement.
Et je pense que la plupart des gens ont du mal, et moi le premier, c'est, tu sais, cette sorte de on va dire de chatouille que tu peux ressentir, ouais, en bas de ventre.
Le petit instinct là, le qui petit fait instinct coucou.
Que t'as pas envie d'écouter. Ouais. Ouais. Mais du coup, moi, je vous le dis, celui-ci, choyez-le, ouais, parce que c'est la bonne réponse.
Et ben, bah, ça, c'est encore une fois, on en parle tout le temps dans le déclic, et on en a parlé avec l'épisode sur avec Léa Bordier, qui est une de nos amies avec Sophie, qui avait décidé de quitter la rédaction dans laquelle on s'est connus pour rien en fait, et qui, quand à chaque fois tout le monde lui disait mais qu'est-ce que tu vas faire après, elle disait bah je sais pas. Et en fait, il s'avère que maintenant, ça a jamais aussi bien marché que maintenant, et en fait, elle a juste écouté son instinct qui lui a dit mais pars. Et tu verras ce qui va se passer, quoi.
Clairement, mais je pense qu'on peut, toujours. En fait, on se trouve. Je pense qu'on se trouve le jour où on se décide de se perdre. Mmh. Clairement.
C'est très beau.
Ouais.
J'ai envie de finir là-dessus.
Allez.
Je te remercie beaucoup, Jérémy.
C'était un vrai, vrai plaisir.
Merci beaucoup. À très vite.
À très vite. Des gros bisous. Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le déclic de Jérémy. Si cet épisode vous a plu ou que vous aimez nos podcasts en général, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire pour nous soutenir. Pour toujours plus de 18h17 Productions, découvrez nos autres formats, la chanson et l'apéro. Par rapport à ce second confinement, nous avons de quoi continuer à vous divertir encore quelques semaines, excepté pour l'apéro. Le rythme reste donc inchangé pour la chanson et le déclic, rendez-vous chaque mardi soir à 18h17. Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter à 18h17 Productions, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.